Bonsoir Aude Lavigne, à demain et bonsoir à tous. La dispute. Ce soir, la musique. Ce soir, Christophe Courne des Inrecuptibles et Olivier Lame de The Drone se font face. Nous allons nous disputer autour de deux albums. L'album Wonder Where We Land de Subtrack chez Young Turks et Something Shines de Laetitia Sadier chez Drag City. Nous évoquerons aussi plus rapidement cette nouvelle édition enrichie de fantaisie militaire d'Alain Bashung et l'album Pericoresis de Secret Chiefs 3. Dans une vingtaine de minutes, nous retrouverons Antoine Guillot, c'est plus simple à prononcer, pour une revue de presse culturelle quotidienne que le monde entier attend chaque soir. Le jeu de la dispute vous permettra de gagner des entrées pour l'exposition SAD Attaquer le soleil au musée d'Orsay. Enfin, nous avons rendez-vous avec l'invité de la dispute cette semaine, Enki Bilal. Et nous ouvrons cette dispute avec le nouvel album de Subtrack. Ça s'écrit SBTRKT, ça veut dire soustraire en anglais. Soustraire, c'est tout ce qui pourrait nuire à l'écoute de la musique. C'est le souhait d'Aaron Jerome, le DJ et compositeur anglais qui se cache derrière ce nom sans voyelle et qui se cache surtout derrière des masques cérémoniaux venant d'un peu partout, que ce soit donc en vidéo ou en concert. Il s'est d'abord fait connaître pour ses remixes, pour ses sets de DJ justement, avant de sortir quelques EP. Et le morceau Wildfire en 2011, qui lui a assuré une assez grande notoriété de par le monde. Il revient avec un deuxième album intitulé Wonder Where We Land, sorti chez Young Turks, Beggars, Wagram. On écoute le morceau Temporary View avec un featuring de Champa.
I see those multicolored tears all bleeding from your eyes. I see the rainbow and the darkness at the same time. I guess that's what you call this life, and it could end tomorrow when you can't imagine anywhere else. Oh, imaginary stairs, I'm out here on the edge. I know it's just a temporary view. Won't you help me and invite your life to wake my desire? I need something new. Scene when I see the movie in my mind's eye, staring through the keyhole just to catch some sunlight. Start the clicker, take the picture. Yeah, I'm there with you, and I wouldn't want to be anywhere else. Oh, imaginary stairs, I'm out here on the edge. I know it's just a temporary view. Yeah. Won't you help me and invite your life to wake my desire? I need something new. Won't you help me and invite your light to wake my desire? I feel you falling into my arms, crawling under my skin.
heaven, I'm having blood vision. I wonder if you could envision it. Sometimes you just need an escape. I understand, that's why you had to fly away. Spin, I'm living. I'm having blood on blood vision. I know that's why you had to live.
Voilà pour cet extrait du nouvel album de Subtract, Christophe Comte, adepte de Subtract.
Adopte un subtrack.com. Oui, et depuis le début d'ailleurs, depuis le précédent album, je trouve que voilà, ça fait partie de ces disques qui définissent un peu le son d'une époque, voilà, sans aller aussi loin, mais malgré tout, si on remonte un peu le temps en Angleterre, il y a toujours eu comme ça des moments, des albums ou des projets qui ont vraiment, sans faire forcément avancer les choses, qui ont défini vraiment un son. On pourrait citer Soul to Soul il y a très longtemps dans les années 80. Oui. Évidemment, Massive Attack, Portishead, Tricky, début des années 90. Le dubstep dans les années, au début des années 2000. Et aujourd'hui, un peu tout ça, finalement, chacun se C'est nourrit vrai. De l'autre. Et on arrive après à des hybrides de ce genre-là. Qui, pour moi, effectivement, évoque aussi bien les débuts de Massive Attack que le dubstep, que James Blake, évidemment, qui a aussi amené, lui, ce côté hypersensible dans la musique underground anglaise, qui était le dubstep. Voilà, c'est... Alors, ce disque-là, pour moi, est vraiment une synthèse de ce qu'on peut faire de mieux dans un disque qui est aussi éclaté avec autant d'intervenants. Parce que je trouve qu'il y a une science vraiment du featuring chez Aaron Jérôme, c'est ça ?
Oui.
Qui est vraiment, j'oublie toujours son nom, mais bref. Mais qui est vraiment très, très subtil. Déjà, il a réussi à faire émerger comme ça des voix, celle de Sampa en est une, et il était déjà sur le premier album. Et là, il fait encore vraiment des étincelles, comme on a pu le voir sur ce morceau-là et sur d'autres de l'album. Et il y a beaucoup de gens comme ça, soit des gens déjà connus qui l'amènent dans sa musique, le plus étonnant étant Ezra Koenig de Vampire Weekend, par exemple, parce qu'a priori, il n'y a pas grand-chose à voir, ou ce folk que moi, je ne connaissais pas, américain, qui s'appelle Rory, qui chante sur un des morceaux, pour moi, un des plus beaux, après celui qu'on vient d'entendre, qui est le morceau « Higher ». Et tous ces gens-là, Jesse Ware, enfin plein de gens, arrivent à être eux-mêmes, dégager une personnalité vocale très très forte, mais dans un contexte musical où c'est jamais de la fabrication, c'est jamais du collage au mortier, c'est vraiment très subtil, c'est au service de la vision musicale qu'a ce garçon qui fait partie de ces... nombreux musiciens maintenant qui vivent cachés derrière des masques, derrière des rideaux, etc., ou des casques.
Des rideaux de doux.
On en verra bientôt, je suis sûr. Mais qui en même temps, voilà, bon, c'est toujours le même discours, c'est la musique avant tout, c'est voilà, un projet collectif, mais en même temps extrêmement maîtrisé, et qui a l'air très maîtrisé et qui, effectivement, est extrêmement subjectif. Dans le fond, on voit très bien que ce garçon a une vision très claire de ce qu'il veut faire. Là, pour ce deuxième album, au lieu de rester en immersion dans la scène bouillonnante londonienne, il est allé se perdre dans un manoir, je crois, ou dans une... Enfin, en tout cas, très en retrait sur une île où il a fait venir à lui un peu tous ces gens. Et ça donne un côté peut-être un petit peu plus mystérieux, un petit peu plus magnétique encore, je trouve, sur cet album-là que sur le premier, qui était déjà très réussi.
En venir, y compris à Azap Ferg, donc du collectif Azap Rocky, voilà, dont on avait parlé ici, donc ça veut dire aussi amener un hip-hop ou R&B américain qui est quand même
parce qu'il y a vraiment
assez loin.
Il y a ça aussi
dans l'album.
Il y a aussi ça. Il y a un morceau, je ne sais plus lequel d'ailleurs, New York,
ouais. C'est ça. New York, New Drop, un jeu de mots.
Bref, qui pourrait passer pour un morceau de Prince. Ouais, si Prince faisait encore des morceaux écoutables. Donc il y a vraiment quand même une variété de tons et de tonalités, de matière, de mélange et de sorcellerie qui est vraiment très très forte, je trouve, sur ce disque.
Olivier Lam, votre sentiment sur ce track ?
Commencer par dire que je suis assez d'accord sur le premier album qui était éponyme, sorti il y a quelques années, qui était d'autant plus intéressant que Il venait un peu nulle part. C'est-à-dire que contrairement à la plupart des gens de cette scène, on va dire, on va appeler ça une scène, mais qui est en gros cette scène post un peu tout. Il y a un critique anglais qui s'appelle Simon Reynolds qui parle de hardcore continuum. Lui, il voit une continuité depuis en gros la fin de la musique de rêve, la fin de l'acid house jusqu'à aujourd'hui dans une musique qui a notamment voilà, ressassé le reggae, les Caraïbes et évidemment la musique du futur, etc. Ce qui a donné la jungle, le dubstep, les diverses incarnations du garage, UK garage, etc. Et contrairement aux gens de cette scène qui sont des gens qui en gros commence, c'est vraiment quelque chose de très étagé, c'est par étapes. Premier maxi, on mixe, on fait ses preuves en club, etc., etc. Et puis le premier album, il arrive généralement une fois qu'on s'est fait reconnaître par l'underground, et ensuite on sort un premier album qui a priori est est une sorte de cerise sur le gâteau de tout ça, et qui est une sorte de crossover pop où on fait venir des chanteurs et des chanteuses. Et curieusement, tous les gens du dubstep et du post-dubstep, bref, en gros, de cette scène-là, se sont un peu cassés les dents. Je pense à Scream, à Banga, qui est un peu les pionniers. Le seul qui a un peu réussi à tirer son épingle du jeu, c'est James Blake, qui a réussi à faire un très beau succès commercial tout en restant assez exigeant. Et ensuite, il y a ce type-là, Subtract, qui est arrivé un peu de nulle part et qui a fait le premier beau disque, un peu, de cette espèce de bordel, on va dire. Il y avait des morceaux d'électro-funk sur le disque, il y avait des morceaux chantés, etc. Là, forcément, il se retrouve, après un beau succès d'estime et même un succès commercial, à être obligé de faire un deuxième disque.
On est obligé à rien.
Bah, non, mais c'est-à-dire, si, il est sur sa lancée.
Voilà.
Et pour moi, on est un peu sur l'échec typique du deuxième album, à savoir qu'il essaie de... Sans répéter la recette, il essaie d'être forcément dans une sorte de jeu dialectique, donc il essaie d'être en réaction par rapport à l'album. Et il répète ce qui était le plus réussi dans son premier album, à savoir un vrai sens de l'épure. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il y a souvent assez peu de pistes dans ses morceaux, ce qui est quand même assez rare aujourd'hui dans la pop, où il y a une sorte, quand même une légère tendance à la surcharge. Lui, il va directement à l'essentiel et en même temps, une velléité artistique qui n'est pas inintéressante. Voilà, une sorte de... On sent qu'il veut prendre un peu de la hauteur, mais le songwriting, l'écriture des chansons ne suit pas du tout derrière. À tel point qu'à chaque fois qu'il y a une bonne idée, il n'y en a jamais une deuxième. Et moi, ça me frustre énormément. Les morceaux sont tous très courts. C'est vrai que c'est étonnant. Les morceaux s'arrêtent tous trop tôt. C'est très, très, vraiment très rare dans les disques de musique
électronique
aujourd'hui.
Mais vous aimez les plages de 19 minutes, Olivier, c'est pour ça.
Non, mais justement, je suis assez heureux de ça, parce que c'est un vrai disque de pop dans ce sens-là. Souvent, les morceaux durent moins de 3 minutes. Enfin, c'est vraiment étonnant.
C'est vrai.
Il y a même des miniatures très, très courtes qui s'arrêtent très brutalement. Il y a des jeux de coupures, etc., qui ne sont pas inintéressants. Mais je trouve que ça va un peu nulle part, et quand il y a une belle idée, elle est toujours isolée. Voilà. Et moi, ça me frustre beaucoup. Alors que le premier album, c'était à chaque fois la bonne dose et la bonne durée. Là, j'ai l'impression qu'il y a un peu beaucoup de jus de cerveau et j'entends pas beaucoup de spontanéité. Voilà.
Bon, alors spontanéité, je sais pas, c'est peut-être pas ce que j'attends d'un disque, donc je reprendrai pas ce mot-là,
mais c'est
un peu l'inverse. Moi, je suis pas frustré, je suis plutôt comblé par la variété des registres, des propositions, et c'est ce que disait Christophe Comte tout à l'heure, non seulement par la diversité des featuring, et donc avec des univers quand même chaque fois, mais c'est, on dirait, à la fois une compilation et un album solo. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression d'entendre quand même effectivement une couleur, une sensibilité sur tous les morceaux de l'album, et en même temps, comme ils sont dans des registres assez différents et avec ces voix assez différentes, du coup c'est un disque qui moi me fait aller de surprise en surprise, que j'ai déjà en fait beaucoup écouté. Je pense que je continuerai à écouter, Christophe Comte.
Ah oui, moi je suis totalement d'accord avec ça. Je comprends ce que dit Olivier. En même temps, je trouve qu'il y a une petite contradiction à dire qu'il a gardé le meilleur de son premier album tout en ratant le deuxième. C'est un peu bizarre comme
non, parce qu'il a tout simplement raté les chansons. Je pense qu'il y a un vrai déficit d'écriture là.
Je trouve qu'il y a un nombre de tubes, évidemment dans un monde idéal, mais je trouve qu'il y a quand même des morceaux très très forts sur ce disque. Et d'ailleurs, ils sont sortis un peu avant la sortie de l'album. Il y a eu comme ça quelques morceaux qui ont émergé, pas forcément les plus évidents d'ailleurs, et à chaque fois c'était quand même Voilà, il y avait cet art du teasing a été là pour le coup très, au lieu de faire écouter 40 secondes comme tout le monde, il a balancé 2-3 titres qui ont vraiment provoqué une excitation, et je trouve que cet album remplit totalement la promesse de cette excitation.
Moi, je sais pas, je conseillerais juste aux auditeurs qui ont l'album à la maison d'écouter un peu ce qui se passe derrière, parce que souvent il y a une sorte de, moi il y a un vrai effet de surplace, c'est-à-dire que quand le morceau commence, tout est là, il y a rien qui vient s'ajouter ou se retirer en course pendant le déroulé du morceau, ce qui est assez rare. Et souvent ce qu'on entend, et je trouve, alors voilà, on peut dire que c'est de l'épure, moi je trouve ça assez pauvre. Ouais. Vraiment, je sens une grande frustration. Alors que je suis très client de ce genre de disque. Hein. Je veux juste en profiter pour parler d'un disque qui est sorti il y a 2 ans, dont on n'a quasiment pas parlé, qui a pourtant été fait là pour le coup par un vrai insider de la scène, qui est DVA, qui est un des artistes, on va dire, ponte du label Hyperdub, qui est un label maintenant qui vient de fêter ses 10 ans, qui est un label très installé, qui est un album qui s'appelait Pretty Ugly, qui était exactement le même principe que ce disque, à savoir un disque de chansons soul post-R&B avec un vrai habillage assez futuriste, et qui est un album qui a été très peu écouté, notamment en France, et je trouve ça très dommage. Donc voilà, je conseillerais aux auditeurs d'aller voir ce disque de DVA.
Non, je suis d'accord, j'aime beaucoup ce disque de DVA aussi, mais je pense pas que ça se soit vraiment comparable, mais bon, après...
On en parlera
en antenne. Ouais. Bon, pour la peine, un autre extrait, très court, morceau d'une minute trente, voilà, qui s'appelle « If it happens ». Make it up as we go on. The composer's problem. Yeah, we're lost in longing. Yeah, and if I had to, if I had to, sure I would. If I had to, would I lie? Would I lie to myself just to be close to somebody? So I lie to myself just to be close to somebody else. So I lie to myself just to be close to somebody else. Just as everything goes silent, do I have enough to reconcile this? Oh, we can make it. Oh, could we make it? Oh, should we fake this? I don't know how. Arrêt brutal, vous l'aviez dit, Olivier Lam. Cet album s'appelle donc Wonder Where We Land. C'est l'album de Subtrack chez Young Turks en concert au Trianon à Paris le 18 novembre. Pour l'instant, c'est la seule date française prévue.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Dans une quinzaine de minutes, nous disputerons autour du troisième album solo de Laetitia Sadier qui s'appelle Something Shines. Avant cela, tout ce qui brille dans la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute avec Antoine Guillot. Bonsoir, cher Antoine.
Bonsoir, Arnaud Laporte. Bonsoir à toutes et à tous. On a gavé les gens avec la chanson You're Beautiful et elle est devenue ennuyeuse. De qui cette déclaration frappée au coin du bon sens? De son interprète, James Blunt lui-même, dans une interview au magazine britannique Hello, cité par Télérama. Visiblement, le chanteur ne supporte plus ce tube mondial qui s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires. Il ne semble pas pour autant envisager de reverser ses royalties à ses victimes. C'est-à-dire nous, se plaint l'hebdomadaire culturel. Quoi de pire qu'une scie planétaire? Sans doute une reprise malheureuse. I may not always love you, but as long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be. « Marx écrivait dans le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Hegel a déjà dit que les grands hommes et les grands événements de l'histoire se reproduisent toujours, pour ainsi dire, deux fois. Mais il aurait dû ajouter la première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce. Aussi étrange que cela puisse paraître, écrit Diane Lizarelli dans Les Inrecuptibles. C'est à cette formule que fait penser la reprise du monument God Only Knows, chanson culte des Beach Boys, sortie en 1966 sur le non moins culte Pet Sounds, par une foule de stars ayant pour point commun d'être lourdement tartiné de fond de teint. Sachez-le, prévient la chroniqueuse des Inrocs, personne n'est à l'abri. À tout moment, un décideur de ce que l'on appelait l'industrie du disque pourrait choisir votre morceau préféré pour en faire une reprise absurde et ou édulcorée. Un bon filon sans doute, reste que le motif avancé ici est caritatif. La BBC produit ce clip pour une opération visant à récolter des fonds pour les enfants dans le besoin, l'occasion de mobiliser une brochette de stars, de Pharrell Williams à Kylie Minogue, en passant par Dave Grohl, One Direction, Elton John, Stevie Wonder, Chris Martin, Lordi, Brian Wilson himself et aussi d'autres gens très célèbres que l'on peine à reconnaître. Aux nouveaux arrangements sirupeux s'ajoute une mise en image des plus kitsch. Outre les effets spéciaux donnant au tout une grande ressemblance avec l'horrible générique de Secret Story, notons la présence de toutes les figures obligées du clip caritatif, air concerné, front plissé, sentimentalisme surjoué et vocaliste déplacé. Ne manque plus que la session d'enregistrement à grand renfort de casque audio et micro pro, l'estocade arrivant à la toute fin quand, après qu'une plume a fini sa course folle sur les touches du piano de Wilson, apparaît ce message « For the love of music ». Est-ce pour l'amour de la musique ? Dieu seul le sait. Sans doute, toujours est-il que Suor Cristina, dont je vous ai déjà parlé ici quand elle avait au printemps 2014 gagné la version italienne de The Voice, vient de sortir sa version de Like a Virgin dans un clip, prélude d'un album de reprise qui sortira en novembre. Une version qui, pour Philippe Ridé dans M, le magazine du Monde, n'a pas grand-chose à voir avec l'original. Filmée sur un fond de Venise un peu froide, vêtue d'une stricte robe de religieuse, croix autour du cou et lunettes sages sur le nez, Suor Cristina réussit le tour de force de métamorphoser un hit de dance floor en prière ou peu s'en faut. Like a virgin, touched for the very first time. Comme une vierge, touchée pour la première fois, comme une vierge. Quand ton cœur bat près du mien, ces paroles semblent avoir été écrites pour cette jeune femme née Cristina Sciuccia il y a 26 ans en Italie, en Sicile. J'ai lu le texte sans regarder son passé, comme s'il était neuf, et je lui ai donné une interprétation complètement nouvelle, explique-t-elle dans La Croix. À l'origine, le texte dit « Je me sentais défaite, incomplète, mais après ce toucher, j'ai rencontré l'amour. C'est un peu l'expérience que j'ai vécue avec Dieu. J'étais triste, en recherche, je menais une vie désordonnée, mais quand Dieu m'a touché, j'ai rencontré l'amour vrai, celui que je veux suivre le restant de mes jours. » Depuis sa victoire à The Voice, reprend le correspondant du Monde à Rome, ses vidéos ont été vues des dizaines de millions de fois sur les plateformes de partage. Consécration suprême, elle a reçu les félicitations de Whoopi Goldberg, l'interprète de Sister Act. Puis, progressivement, la trace de Sœur Cristina s'est perdue. On a dit que la religieuse italienne était entrée dans une période de doute, se demandant si, malgré son insistance à se placer dans les mains de la Providence, son statut de star ne l'éloignait pas de ses vœux. Quant à l'album promis par Universal pour prix de sa victoire, il se faisait attendre, grinçant. Certains évoquaient des précommandes trop faibles pour couvrir les frais d'enregistrement d'un disque à Los Angeles. Voilà qui confortait des critiques musicaux, estimant que le succès de la nonne était davantage dû à l'attachement des Italiens au catholicisme qu'à ses talents de chanteuse. Il apparaît aujourd'hui que ce silence était aussi la conséquence d'une campagne de promotion bien conduite et qu'il préfigure un lancement médiatique réussi. L'association d'une religieuse des Ursulines et d'une reine de la pop ne manquera pas, tôt ou tard, de produire une de ces polémiques dont la péninsule a le secret. Et qu'en pense-t-elle d'ailleurs, la dite reine de la pop ? Elle a posté sur Twitter et Instagram deux photomontages d'elle en compagnie de Cristina, rapporte le Parisien. La première est légendée « Like a virgin, point d'interrogation, biting hard, dur à croire », mais la seconde « Sisters for life, for the very first time, sœur pour la vie, touchée pour la première fois, autant dire une absolution.
Bon, moi, je conseille une reprise d'Ophélie Winter. Dieu m'a donné la foi, ça pourrait être bien par sœur Christina quand même. Hein. Bon, Brian Wilson, il faudrait le laisser tranquille, non, peut-être.
Faut qu'il reste chez lui, peut-être. Il est un peu complice parce qu'il est dedans.
Bah oui, c'est ça le problème.
Tout a été dit à la fois par Antoine et par mon excellente consœur Diane Lizarelli, dont le papier était vraiment hilarant, sur ce clip qui est assez sinistre quand même. Bah parce que bon, c'est quand même vraiment, je crois qu'unanimement, une des très très grandes, voir la plus belle chanson au monde, en tout cas dans le milieu de la pop, mais et la
fin de la sable, votre responsabilité.
Pour moi, en tout cas, ça l'est.
C'est pareil, beaucoup de gens. Un risque complètement de.
La plus belle, non. C'est une folie.
Une des plus.
et voilà, bon, ce traitement, voilà, c'est vrai que le clip rajoute encore un peu de kitsch à la chanson qui elle-même traitée comme ça n'est pas bien reluisante, mais voilà, bon, c'est pas non plus un crime de. Lèse-Majesté.
Olivier Lam,
non, mais on se demande toujours pourquoi il faut. C'est comme pour les t-shirts qu'on vend dans les magasins de un peu à la mode. Il faut aller chercher Sonic Youth ou des choses qu'on aime. Pourquoi pas plutôt reprendre les choses qu'on n'aime pas? Pourquoi pas reprendre James Blunt? J'en sais rien. Enfin, ça semble. Enfin, ça marcherait autant de disques et puis qu'il laisse les belles chansons tranquilles. Ah,
c'est une bonne idée, non, ça. On va y penser. Bon, à propos de belles chansons, Olivier Lann donnera son coup de cœur en fin d'émission. Christophe Comte, nous partageons un coup de cœur. On est quelques-uns, il faut dire. Hein, pour une édition discographique tout à fait originale pour un album que nous ne cessons d'écouter depuis toutes ces années. Je parle de Fantaisie militaire d'Alain Bashung. Universal a donc sorti 3 CD. Alors, le disque qu'on connaissait depuis son origine, et puis 2 autres, on va en écouter un extrait dans un instant, qui raconte d'une certaine façon l'histoire d'un disque que je trouve, moi, parfait, pour le coup, d'un bout à l'autre.
Oui, en plus, un disque qui a été conçu vraiment de manière empirique, avec beaucoup de gens qui ont travaillé chacun dans leur coin et qui se sont à un moment retrouvés dans un studio pour rassembler tout un tas de recherches, de fantaisie, pour reprendre le titre. Des gens aussi différents que les Valentins ou bien Richard Mortier, qui était un ancien guitariste de scène de Bashung. Bashung lui-même avec Jean Fauque, qui ont quand même beaucoup, beaucoup travaillé sur les textes sur cet album, peut-être plus que précédemment, qui ont vraiment tenté des choses assez remarquables. Et puis, à l'arrivée, un disque qui est à la fois un des plus personnels, parce que Bashung traversait une période un peu compliquée à l'époque, et en plus un disque que beaucoup de gens ont acheté et qui a très bien marché, notamment en raison de La Nuit Je Mens, qui est rentré depuis dans le panthéon quand même de la chanson française.
Et comme toujours, on apprend effectivement que ce morceau est arrivé presque
à la fin. Exactement, c'est toujours
le truc en plus. En fait, j'ai un petit bout de morceau et puis ça devient...
Et donc, alors, il y a des gens... Moi, j'en ai croisé pas mal parce que j'ai fait un article sur cet album. Il y a des gens qui disent...
De la semaine dernière.
Il y a des gens qui disent, oh là là, mais pourquoi on montre ça? Alain n'aurait jamais voulu. Alors, c'est les gens qui parlent à la place des morts.
Toujours.
Mais moi, je trouve très intéressant de voir ce chantier en construction avec parfois des versions totalement différentes de celles qui sont à l'arrivée sur l'album. Et pour cause, parce que parfois, c'est des options musicales qui n'ont pas du tout été retenues. Mais ça donne une bonne vision de ce que peut être un album. Et là, en l'occurrence, un album français qui est très, très riche et dont on voit un peu comme ça les échafaudages, les erreurs, les mauvais plans et les bons plans aussi. Et moi, je trouve que c'est... Comme on dit dans la télé-réalité, pas c'est que du bonheur, mais c'est que du bonus. On n'est pas obligé de l'écouter, c'est je trouve ça bien, moi, d'entendre l'arrière-cuisine.
Moi, je trouve ça fabuleux. Alors, c'est difficile de choisir un extrait parmi ces nombreuses autres versions. Voilà, je choisis celle-ci. Vous m'avez laissé le choix, Christophe. C'est une des versions de « Dehors ».
Dehors, le lièvre courasse. Dehors, tout le monde dort. J'embrasse mon terrier, j'aime la chambre à part. Je sors me joindre à l'affluence, me poser sur la branche, au risque de me trouver à l'étroit. Faudra se serrer comme une forêt vierge, faudra se mêler de lianes infinies et faits de serre. Ma vie sous verre s'avère ébréchée. Dehors la peur de l'eau qui dort. Je prépare mes hameçons, mon bouchon et qu'on sort. Ça mange, ça fout l'effervescence. Regardons à la tanche, au risque de me trouver devant toi. Faudra se serrer comme une forêt vierge. Faudra se mêler nos liens infinis et faits de serre. Ma vie sous verre s'avère ébréchée. Dehors le lièvre court la hausse. Dehors, tout le monde dehors. La foule dessoulée enfume les isoloirs. Se part d'un désir d'imprudence, d'amour en avalanche. Au risque de se trouver à l'étroit. Faudra se serrer comme une forêt vierge. Faudra se mêler nos liens infinis et faits de serre. Ma vie sous verre s'avère ébréchée. Faudra se serrer comme une forêt vierge. Faudra se mêler nos liens infinis et faits de serre. Ma vie sous verre s'avère ébréchée.
Voilà pour cette extrait de ce triple album, une belle édition, en plus c'est un bel objet à avoir dans sa bibliothèque, cette fantaisie militaire rééditée avec tous ces suppléments, tous ces morceaux, toutes ces différentes versions de différents morceaux de cet album Fantaisie militaire. Avant de parler dans quelques minutes de Laetitia Saadier et de son troisième album solo, on retrouve d'abord l'invité de la dispute cette semaine, c'est Enki Bilal. Enki Bilal, en souvenir de lecteurs de vos albums, on peut se faire la bande originale des albums qu'on lit, mais des livres qu'on lit, on en parlera demain aussi pour parler de littérature, mais il y a les films, ouais. Bien sûr, et là la musique, elle est bien réelle. La musique, elle occupe quelle place dans votre vie ?
La musique, c'est très important pour moi. Ça, j'ai besoin de, lorsque je travaille, d'être enveloppé dans ces ambiances musicales. C'est très éclectique, hein, de plus en plus. Enfin, je suis très pointu dans mes propres choix à l'intérieur des genres musicaux, mais disons que je ne suis pas fermé.
Il y a des musiques qui correspondent à certains types de travaux.
Je pense que
et
oui.
D'autres,
oui, quand je dessine, quand je peins, quand je dessine, la musique peut être plus. Plus déstructurée, plus violente, plus, je parle du rock, de l'électronique un peu, ou de la musique plus contemporaine, on va dire, moderne. L'écriture, c'est sacré. Alors, c'est sacré au sens où musique sacrée très souvent.
Ah oui.
Donc beaucoup de musique sacrée, moi qui ne suis pas croyant, on va dire, qui ne suis pas pratiquant d'aucune religion, ni croyant. Mais en tout cas, ça m'apaise. Et puis bon, voilà, j'écoute. C'est des envies. J'ai pas mal de sources musicales à ma disposition.
Ah, on va le voir.
La qualité du son aussi est extrêmement importante. Donc je soigne ça aussi quand même.
On voit tous les soirs de la semaine, et évidemment ce sera le cas dans l'émission Littérature de demain, que vous pratiquez. On a parlé de spectacle vivant, on a parlé de cinéma, on a parlé d'art plastique, on parlera de livres demain. La musique, vous avez pratiqué, vous avez eu envie de pratiquer ?
Malheureusement, non. Non, parce que je pensais que c'était trop loin. Puis le dessin me prenait trop de temps. Enfin bon, j'étais accaparé par ça, par cette passion-là. Mais la musique restera toujours comme une frustration, un peu un manque. Mais donc je compense en écoutant, voilà, en étant un consommateur de musique. Voilà, c'est bien aussi qu'il y ait ces frustrations. Je veux dire, je fais déjà pas mal de choses. Voilà, je fais déjà des trucs. Voilà, mais on me le reproche certains d'ailleurs.
Alors, dans votre platine en ce moment, il y aurait quoi ?
Bah écoutez, alors là, en fait, c'est drôle parce que j'ai vu, je ne connaissais pas, c'est un musicien anglais qui s'est installé à Berlin, dont le surnom est The Bug. Alors, il a sorti un disque Angels and Devils. Je ne connaissais pas. J'ai vu ça il y a 2-3 jours dans l'Ibé. Et j'ai écouté, j'ai téléchargé. Électronique, très, très, très intéressant. Je trouvais que ça m'a fait du bien. Je me suis dit, tiens, c'est quelque chose qui va m'accompagner. Et puis comme pour l'instant, j'ai donné surtout des choses plutôt anciennes comme référence. Là, c'est pas un coup de cœur, c'est que simplement, je me dis, c'est ça que j'ai envie d'écouter en ce moment. Et c'est très, très bien. Donc voilà, je conseille de Bug. Voilà, et je pense qu'il a écrit déjà d'autres, il a sorti évidemment beaucoup d'autres disques. Et puis, alors, pour contrebalancer aussi, quelque chose d'assez récent, mais qui m'a énormément plu de la première écoute, plus facile, c'est London Grammar, ce groupe anglais, très jeune, avec une voix même féminine absolument magnifique, et des mélodies très 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 à la fois modernes et en même temps immédiatement saisissantes, quoi. Donc ça, c'est très, voilà, c'est marrant, les deux sont anglais. Il y en a un qui commence à être perverti par Berlin, ce que je trouve intéressant.
Bien perverti
par Berlin. Mais voilà, donc c'est un peu les deux, disons, le grand écart que je pourrais faire aujourd'hui en écoutant de la musique moderne. Ce serait plutôt ça, l'électronique de Bug et puis London Grammar.
On va suivre votre conseil, Enki Bilal, et on découvrira ensemble demain vos conseils en matière de littérature. The Bug, donc recommandé notamment par Enki Bilal. On poursuit, nous, notre dispute du jeudi soir, consacrée donc à la musique, pour nous intéresser au troisième album solo de Laetitia Saddier, qui s'est fait connaître dans les années 90 avec Stereolab. On l'a entendu chanter avec différents autres groupes, et puis avec un autre groupe qu'elle a formé, Monad, avec Rosie Cuxton, qui a sorti un premier album intitulé Socialisme ou Barbarie, de Bedrooms Recordings, ce qui en dit long sur la place que la chanteuse accorde aux questions politiques, on va dire. On reparlera de cette dimension-là. Un premier album solo sorti en 2010, un deuxième en 2011, le troisième nous arrive chez Drag City Modular. L'album s'appelle Something Shines. Et Olivier Lam a choisi de nous faire écouter un extrait de cet album avec le morceau Then I Will Love You Again. Then I Will Love You Again, morceau de Laetitia Saddier, extrait de ce nouvel album solo, Something Shines. Olivier Lame, raison de ce choix.
Raison de ce choix. Déjà, faudrait que je dise, donc j'avoue que je n'avais pas écouté 10 de Laetitia Saddier depuis un moment. Bah, effectivement, c'est son troisième album solo et il y a eu deux albums de Monad. Là, j'ai découvert en préparant cette émission qu'elle venait sortir. Elle a un nouveau groupe qui s'appelle les Little Tornadoes. Elle vient de sortir un album sur Off Trade. Enfin, bon, elle est quand même très productive. Et moi, j'avais un peu lâché sur le premier Monad, en fait, pour tout avouer, que j'avais trouvé très bien, mais qui me semblait être un peu une version de poche de Stereolab. Et bon, j'étais un grand auditeur de Stereolab dans les années 90 et les années 2000. Un groupe que j'ai beaucoup suivi, que j'ai eu plaisir à suivre. Y compris dans les moments où ils faisaient un peu du surplace.
C'est plus facile à suivre quand ils font
oui,
du surplace.
Oui, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont sorti beaucoup de disques un peu de manière... Ils ont sorti beaucoup de disques de manière un peu mécanique.
Je savais pas que c'était les grosses têtes ici, en fait.
Vous êtes habitué au multichaîne, à Christophe Comte.
Je sais plus quoi dire. Bref, non, je trouve que Christophe fait du mauvais esprit parce que.
Non, vous êtes revenu vers Laetitia Saddier, c'est ça.
Je suis revenu vers Laetitia Saddier avec ce disque en écoutant le morceau qu'on vient d'écouter un peu par hasard chez un confrère sur France Musique, chez Vincent Théval, pour ne pas le citer, et j'étais très surpris parce que j'avais l'impression d'écouter quelque chose de nouveau de sa part, ce qui m'a fait très plaisir. Je me suis rué sur le disque.
De la part de Vincent Théval ou de
non, de la part de Laetitia Saddier. Bref, et j'étais très, très, vraiment très surpris. Et le reste du disque est un peu plus sur une note post-Stereolab encore, mais avec beaucoup de surprises, beaucoup de choses très étonnantes, des emprunts à la soul notamment, toujours ce mélange de musique cosmique et de vérité, de théorie marxiste annonnée de manière un peu bizarre, mais beaucoup d'idées et surtout des moments très émouvants, des idées musicales très belles avec des allers-retours entre le silence et les cordes, etc. Je voulais en parler parce que pour moi c'est vraiment une de nos classiques. C'est vraiment une classique comme Bachung, par exemple. Non, mais vraiment, je le pense. Le truc, c'est qu'elle chante souvent en anglais et qu'elle est surtout écoutée par des anglo-saxons. Pour autant, c'est vraiment une de nos plus belles artistes, quoi. Enfin, j'en suis persuadé. Ouais.
Bon, Christophe Comte.
Alors, pour tout dire, c'est plutôt une bonne surprise pour moi, cet album. Parce que contrairement à Olivier, moi, Stereolab, c'est un groupe qui m'a toujours un peu ennuyé, mais pour une raison essentielle qui était Laetitia Saddier.
C'est-à-dire la voix de ce groupe.
Sa voix en fait, un peu de Colin Froid, là, qui m'a toujours laissé, pour le coup, très froid. Et pourtant, ce groupe, a priori, avait tout pour me plaire. Mélange de cosmic music, de Morricone, de Harley électronique, enfin tout ce que j'aime dans le même groupe. Mais j'ai toujours trouvé que ce côté, alors de la française en Angleterre, on a l'impression qu'on l'a forcée, qu'elle est là à annoncer des choses, souvent un peu stupide en plus, enfin, vraiment avec un côté... moi, ça m'a toujours un peu dérangé de voir un groupe avec un musicien, alors peut-être les deux d'ailleurs, hein, mais avec une proposition musicale aussi forte, se gâcher un peu ça par une interprétation qui, au début, pouvait avoir un charme, mais au bout d'un moment, ressemblait vraiment à une sorte de limite, quoi. Et je trouve... Alors moi, j'ai zappé Monad, les albums solo et tout ça, parce que je suis pas non plus masochiste. Et puis, de fait, parce que voilà, comme je suis consciencieux et que grâce à Olivier, j'ai pu réécouter un disque de Laetitia Saddier en oubliant un peu tout ce que je pensais d'elle. Et j'étais assez séduit par cet album, pas par tout, mais par quelques titres que je trouve très très beaux. Alors, il y en a beaucoup effectivement qui rappellent Stereolab. On ne sait pas très bien pourquoi ils se sont séparés. Alors peut-être parce qu'ils se sont séparés dans la vie et du coup... mais bon. En revanche, c'est vrai qu'elle n'a pas changé radicalement de style. Elle a peut-être rajouté quelque chose de Brigitte Fontaine un peu, que je trouve sur certains morceaux. Alors ce n'est pas forcément une référence pour certaines personnes.
Non,
mais je trouve que ça fonctionne assez bien, notamment sur les morceaux qu'elle chante en français. Et puis, il y a des très beaux arrangements, il y a des très beaux morceaux. Il y a un morceau que j'ai posté hier d'ailleurs sur Facebook qui s'appelle Release from the Center of Your Heart, dont il existe une version en français également, qui fait vraiment tâche dans l'album parce que pour le coup, il a un arrangement très classique qui, moi, m'a fait penser à Everything But the Girl de l'époque Baby the Sunshine. Je savais que j'allais vous faire
plaisir.
Alors, extrêmement. Peut-être pas avec la voix si
pas
magique
la voix de Tracy Thorn,
mais quand même avec quelque chose de cet ordre-là. Non, je trouve que c'est un disque
plus connaître, qu'on, moi j'ai écouté vraiment avec beaucoup de plaisir, que j'ai réécouté avec beaucoup de plaisir. Et je trouve qu'enfin, peut-être qu'elle a, voilà, elle a trouvé une forme de synthèse de toute cette, voilà, de toutes ces influences qui parfois étaient un peu encombrées. Et là, c'est assez fluide. Et tous les morceaux ne sont pas bien, mais j'aime assez cet objet. J'aime bien la pochette. J'aime bien ce que ça dit en général. Je suis moins client peut-être de l'aspect Guy Debord du voilà, truc. C'est un peu embarrassant.
Mais oui, c'est vraiment embarrassant. Donc voilà. On ne va pas s'attarder dessus parce que déjà, La Société du Spectacle, c'est un livre rude à lire.
Les commentaires
sur la Société du Spectacle, vraiment, avec une citation, on se demande ce qu'elle vient faire là.
Mais elle l'a toujours fait. Et aujourd'hui.
Mais il faudrait qu'elle arrête.
Non, mais c'est-à-dire qu'elle en use. Pour moi, c'est un artifice qui est presque une sorte de. C'est vraiment une pause. De plaisanterie. C'est pas qu'une pause, parce que le disque, si on regarde vraiment les. On n'a pas le temps d'en parler là, mais si on regarde les paroles, il y a une vraie réflexion sur où est-ce qu'on va, etc. Et pourquoi la pop, pourquoi cette pop-là n'aurait pas le droit d'être un petit peu
politisée.
Évidemment,
c'est Zazie, on s'en moque, on peut aussi dire que Laetitia Sadier, les paroles sont pas.
Elle le fait vraiment depuis un endroit très modeste, qui est un petit label, enfin un gros label indépendant américain, mais qui est Drag City. Elle le fait quand même de manière, enfin je veux dire, elle le fait pas de manière aussi fine que d'autres, que des grands songwriters anglais. Je pense à des groupes comme The Otters, mais pour autant, c'est très touchant, moi je trouve, dans ce contexte.
Bon, mais restons sur la bonne nouvelle, c'est que Christophe Comte a apprécié Laetitia Sadier. Vous êtes soulagé, Olivier, non ?
Oui, si je pouvais être un peu comme des responsables de réconciliation.
on n'était pas fâchés, on se connaît pas. Hein.
Vous êtes sensible à ce qui vient d'être dit ici.
Tout à fait. Mais je suis pas surpris non plus, parce que je pense que c'est un disque qui a une vraie. Qui est un peu apaisé, effectivement, et qui a une vraie beauté assez simple, en fait, finalement. Il y a des très belles mélodies, il y a des très beaux arrangements. Peut-être que si elle continue à aller vers plus de simplicité et un peu moins de maniérisme, elle finira par être reconnue comme la classique que j'aimerais que...
Oui, c'est vrai que vos paroles étaient un peu fortes tout à l'heure à ce point.
Pour être classique, il faut quand même être un peu reconnu, et j'ai l'impression quand même malgré tout que ça reste une figure un peu underground, Stereolab a été... mais en France, Stereolab...
Typiquement, Brigitte Fontaine, qui a été oubliée pendant de nombreuses années, aujourd'hui, on peut considérer qu'elle est reconnue comme classique, je ne sais pas.
Mais il y a quand même une œuvre conséquente aussi pour Brigitte Fontaine.
Il y a beaucoup de disques de Stereolab.
Oui, mais ce n'est pas pour autant. Allez.
On parlera.
Là,
on parlait plus de disques de Stereolab que de disques de Brigitte Fontaine.
Vous êtes sûr?
Ah oui.
C'est vrai?
Mais ils en ont sorti, je ne sais pas.
Une quinzaine au moins, sans compter les inédits, les machins.
Bon, on vous croit sur parole. Nos auditeurs vous contrediront au besoin, ils nous tiendront informés, je n'en doute pas. En tout cas, celui-là d'album s'appelle Something Shines, cet album de Laetitia Sadier chez Drag City Modular.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte. Get the right.
Et avant de conclure cette émission en musique, le jeu de la dispute, en commençant Antoine Guillot par donner la réponse à la question posée hier soir qui permettait à nos auditeurs de gagner des hors-séries découvertes Gallimard, Picasso, Le Sage et le Fou par Marie-Laure Bernadac et Paul Duboucher. La question était...
Il fallait nous dire dans quel pays Pablo Picasso a passé la plus grande partie de sa vie.
Il y avait un piège énorme dans cette question. Donc la réponse était en France. Et on gagne ce soir des entrées pour l'exposition Sade, attaquer le soleil au musée d'Orsay jusqu'au 25 janvier.
Un peu plus difficile ce soir, qui a écrit ces quelques mots à propos du marquis de Sade? Cet homme qui parut ne compter pour rien durant tout le 19e siècle pourrait bien dominer le 20e.
Voilà, qui a écrit cette phrase? Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfranceculture@radiofrance.com. Nous allons parler dans un instant de Secret Chiefs 3. Et je fais même une percutante sur mon micro pour le dire. Donc, comme on va finir en musique auparavant, comme chaque jeudi soir, je fais notre générique fin avant la musique, en remerciant d'ores et déjà Olivier Lame qui va s'exprimer sur son coup de cœur, remerciant Christophe Comte et Antoine Guillot, remercier Julien Doumain qui a assuré la prise de son ce soir et Daniel Finot qui a réalisé cette émission, l'équipe de La Dispute, bien sûr, Camille Baron, Pascaline Bonnet, Seam Boutata, Daniel Filon, Antoine Guillot et Laurence Millet. Dire que demain, on se retrouvera pour parler de littérature avec Émilie Barnett et Nathalie Chrome. On parlera des livres d'Éric Vuillard et de Monica Fagerholm. Mais place, encore une fois, à la musique. Alors, pour en savoir vraiment Pour tout savoir, je vous renvoie nos auditeurs au site de Drone et au long article que Olivier Lam a consacré à Secret Shifts 3, qui commence par dire que pour expliquer qui c'est ces gens-là, il faut remonter au paléolithique un peu.
Oui,
pour,
un peu non,
donc là, on va le faire plus synthétique.
Je vais essayer d'être le plus synthétique possible. C'est un groupe qui est apparu, qui était à la base un projet parallèle, le guitariste de Mr. Bungle, un groupe qui est assez connu quand même pour le groupe de Mike Patton. Donc, qui a été créé comme un d'abord.
Si vous le dites.
Oui, bah quand même, Face No More, non, ça parle à des...
Bon, voilà.
Et donc, il y a un groupe qui est très compliqué à présenter parce que c'est un groupe qui en contient sept autres.
Voilà.
Ça s'appelle des groupes satellites, dont la pratique musicale va de la musique concrète au death metal, en gros. Et là-dedans, il y a un des sept groupes qui s'appelle Ishrakiyun, voilà, qui est un groupe dont le nom, ça n'aura échappé à aucun des lecteurs de France Culture. Ishrak, c'est le l'aube. En perse, voilà. Ouais. C'est un hommage au grand philosophe perse, Sohrawardi, sur lequel a beaucoup écrit Henri Corbin. Voilà, et il se trouve que Tress Prunes est un grand lecteur de Corbin.
Les grosses têtes, vous avez dit, hein, voilà. C'est ça.
Bref, grand philosophe mystique. Non, voilà, Tress Prunes, c'est un immense lecteur, notamment de textes ésotériques. Pas comme Tielman a beaucoup écrit sur Secret Shifts 3. Voilà, je renvoie les lecteurs qui seraient curieux d'aller voir tous les nombreux textes qu'il a consacrés au groupe. Et là, c'est le premier album intégralement composé par le groupe Ishrakiyun, donc qui pratique une musique orientaliste, pas orientale, c'est-à-dire volontairement joué uniquement par des Américains, mais avec uniquement des instruments orientaux et uniquement sur des formats musicaux, des accordages et des rythmes non occidentaux. Donc c'est une musique qui est extrêmement, pour les gens qui ont eu la chance de voir le groupe en concert, voilà, qui est une sorte de musique de trance extrêmement complexe. Il y a tout un système, un jeu de formes et de cycles mathématiques, célestes, etc. très complexe, mais qui n'empêche pas, on n'est pas obligé de prendre tout ça pour apprécier leur musique, qui est très belle, et c'est effectivement une musique qui donne effectivement envie d'aller gratter un peu sur les raisons qui l'ont amené à exister. C'est vraiment très beau. Voilà, l'album s'appelle Péricorésis. Qui veut dire Péricorèse, je renvoie aussi les auditeurs. Alors Wikipédia, voilà.
Voilà. Et le morceau qu'on va entendre s'appelle Five Future Cossacks. Et ça va nous amener en transe vers le journal de la rédaction.